Michel Joseph aussi à la mise en onde.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui VOA Afrique, édition du lundi 22 novembre 2021. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Michel Joseph.
Nous commençons par les titres.
Au Burkina Faso, un convoi militaire français pris à partie depuis plusieurs jours dans le centre du pays a été repositionné pour apaiser les manifestants.
En République démocratique du Congo, 5 Chinois kidnappés sur un site minier du sud Kivu et un garde des Virunga tué lors d'une attaque armée, le M23 soupçonné dans ce dernier cas.
Au Soudan, le Premier ministre Abdalla Hamdok, de retour à son poste, un nouveau mort chez les manifestants anti-putsch.
En Libye, le Premier ministre intérimaire Abdelhamid Dbeiba, candidat à la présidentielle de décembre.
Voiture bélier lors d'une parade de Noël aux États-Unis, 5 morts et 40 blessés dans le Wisconsin, selon la police.
Un mort et 3 blessés dans une attaque à l'arme à feu du Hamas à Jérusalem.
Ne manquez pas notre passeport avec Élisée Mpatine.
Pour l'instant, le journal.
Le convoi de l'armée française qui était pris à partie depuis plusieurs jours par des manifestants dans une ville au centre du Burkina Faso a été repositionné au sud de la ville pour mettre fin aux tensions. C'est ce qu'a indiqué dimanche l'état-major français. Au moins 4 personnes ont été blessées samedi à Kaya. Le point avec Eric Manirakiza.
Le colonel Pascal Lani, porte-parole de l'état-major des armées françaises, a dit à l'AFP que la décision a été prise de quitter l'emprise grillagée au sein de laquelle le convoi était positionné pour se déployer quelques dizaines de kilomètres au sud afin de faire baisser la tension et d'éviter une nouvelle journée de face-à-face entre les manifestants, les gendarmes burkinabés et les soldats français. À Kaya, principale ville du centre-nord du Burkina Faso, des manifestants s'opposaient depuis jeudi au passage d'un important convoi logistique de l'armée française en transit vers le Niger voisin, selon des sources locales et hospitalières. Le convoi a quitté l'emprise sans difficulté en pleine nuit alors que les manifestants s'étaient dispersés. Nous nous battons au Sahel pour lutter contre les groupes armés terroristes et assurer la sécurité de la population, pas le contraire, a martelé le porte-parole. Interrogé par une chaîne de télévision privée française, le ministre des Affaires étrangères français Jean-Yves Le Drian a évoqué pour sa part des manipulations sur les réseaux sociaux.
L'insécurité continue de régner dans l'est de la République démocratique du Congo malgré l'état d'urgence. 5 Chinois travaillant dans une mine d'or ont été kidnappés, un policier congolais a été tué et un autre blessé par des hommes armés non identifiés ce week-end. Cela s'est passé dans le sud Kivu, Abdourahmane Dia.
Selon le major Dieudonné Kasereka, porte-parole de l'armée dans la région, c'est vers 2h du matin, dans la nuit de samedi à dimanche, que le campement d'un groupe de Chinois a été attaqué par des bandits armés à Mukera, village situé à environ 25 km de Fizi-Centre. Ils étaient 14 au total, 5 ont été amenés par ces assaillants vers une destination inconnue. Les 9 autres ont pu être évacués en lieu sûr, a-t-il ajouté. Selon le colonel David Eponga, commandant du régiment des forces armées de la RDC à Fidji, un policier a été tué et un autre blessé durant cette attaque. Les Chinois enlevés font partie du personnel d'une entreprise exploitant depuis 4 à 5 mois une mine d'or dans la région, a précisé Lusambia Wanumbe, président de la société civile de Fidji. Selon lui, l'entreprise avait du mal à démarrer ses activités du fait des contestations de la population, lui reprochant de ne pas respecter le cahier des charges. Par ailleurs, un garde du parc national des Virunga, dans l'est de la RDC, a été tué dans l'attaque d'un poste de patrouille par de présumés rebelles du mouvement M23, selon l'Institut congolais de conservation de la nature.
Un ex-chauffeur franco-rwandais, citoyen ordinaire, accusé d'avoir sciemment aidé des tueurs lors du génocide des Tutsis en 1994 au Rwanda, est jugé à partir de ce lundi pour complicité de génocide, troisième procès en France pour des crimes liés à l'une des pires tragédies du XXe siècle. Claude Mouhayi Mahana, 60 ans, était en 1994 chauffeur de l'hôtel Guest House à Kibouye, sur les rives du lac Kivu.
Il est accusé de complicité de génocide et de crimes contre l'humanité pour avoir aidé et assisté sciemment des miliciens Interahamwe en assurant leur transport sur les lieux de massacre dans la préfecture de Kibouye, les collines de Karongi, Gitwa et Bisesero, où des dizaines de milliers de personnes ont été exterminées.
Au Soudan, les manifestants anti-putsch toujours intransigeants, malgré le retour du premier ministre Abdallah Hamdok à son poste, après un accord avec le général Abdel Fattah al-Burhan. Un manifestant a été tué dans la banlieue de Khartoum. Le point avec Gaby Dorsil.
Des manifestants criant non au pouvoir militaire s'étaient massés devant le palais présidentiel où se déroulait la cérémonie de signature. « On ne veut pas de partenariat avec l'armée », martèle Mohamed Farouk, manifestant qui défile à Khartoum. Les forces de sécurité ont tiré les gaz lacrymogènes pour disperser les protestataires. M. Hamdok et le général Burhan, auteur du coup d'État du 25 octobre, ont signé devant la presse un accord promettant de remettre sur les rails, ensemble, la transition démocratique. Il répond ainsi à toutes les conditions posées par la communauté internationale pour redonner son soutien au Soudan. Mais l'ONU a aussitôt prévenu que tous les acteurs soudanais devaient désormais agir de façon constructive et de bonne foi pour restaurer la transition. Les organisations qui avaient mené la révolte de 2019 et ont mis fin à 30 ans de dictature du général Omar Hassan el-Béchir ont dit leur refus de ce qu'ils appellent l'accord des traîtres qui n'engage que ses signataires. L'association des professionnels soudanais, fer de lance de la contestation de 2019, accuse Abdallah Hamdok de suicide politique.
Les États-Unis sont encouragés par cet accord conclu au Soudan entre M. Hamdok et le général al-Burhan, a déclaré hier le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, tout en appelant les forces de sécurité soudanaises à s'abstenir de recourir à une force excessive contre les manifestants pacifiques. Ajoutons que M. Blinken vient de terminer par le Sénégal sa tournée africaine. Nous y reviendrons avec Seydina Abagay à Dakar.
Après le fils de l'ex-dictateur Kadhafi et le maréchal Haftar, le premier ministre libyen par intérim, Abdelhamid Beba, est rentré ce dimanche dans la course présidentielle, provoquant un nouveau bouleversement du jeu électoral à un mois du scrutin du 24 décembre. C'est un jour historique et décisif. Je suis venu pour la patrie et l'unité de la patrie, a déclaré M. Beba, 57e candidat à déposer son dossier.
La promesse du président tunisien au chef de la diplomatie américaine, Kais Saied, a assuré préparer la sortie de l'état d'exception en vigueur depuis le 25 juillet lors d'une conversation téléphonique avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Le point avec John Linden.
Selon la présidence tunisienne qui a rendu public dimanche cette discussion, la Tunisie prépare les prochaines étapes politiques afin de sortir de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve le pays et de le ramener à une situation normale. Monsieur Saïd a expliqué au secrétaire d'État avoir agi face à un parlement tunisien qui s'était transformé en théâtre d'affrontements où les travaux ont été perturbés à maintes reprises par des violences verbales et physiques. Il a par ailleurs souligné que les difficultés économiques et sociales sont le problème essentiel de la Tunisie. Dans un tweet, M. Blinken a confirmé avoir discuté avec M. Saïd des récents événements et des initiatives gouvernementales en Tunisie. M. Blinken a dit avoir encouragé le président à s'engager dans un processus de réforme transparent et inclusif afin de faire face aux importants défis politiques, économiques et sociaux de la Tunisie. Le 25 juillet, le président Saïd a limogé le premier ministre, gelé les activités du Parlement et repris le contrôle de l'appareil judiciaire. Ses détracteurs dénoncent un coup d'État et un accaparement du pouvoir.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, une voiture bélier a fait 5 morts et 40 blessés en percutant dimanche une foule rassemblée pour une parade de Noël à Waukesha dans le Wisconsin. Le chef de la police de Waukesha a annoncé que la police avait appréhendé un suspect et retrouvé le véhicule incriminé.
Et à Jérusalem, une personne a été tuée et trois autres blessées hier lors d'une rare attaque à l'arme à feu menée par un Palestinien membre du Hamas dans la vieille ville de Jérusalem, ont indiqué les autorités israéliennes.
Deux candidats à l'opposé de l'échiquier politique, José Antonio Kast pour l'extrême droite et Gabriel Bugrich pour la gauche, se sont qualifiés dimanche pour le deuxième tour de la présidentielle au Chili, confirmant le recul des partis traditionnels 2 ans après la révolte sociale.
Des troubles ont éclaté aux Pays-Bas hier soir. Pour la troisième soirée consécutive, le nombre d'arrestations sur les 3 jours de manifestation contre les mesures anti-Covid, montant à 145, ont indiqué la police et les médias locaux.
Des heurts ont également éclaté dimanche lors d'une manifestation contre les nouvelles mesures anti-Covid à Bruxelles, qui a rassemblé des dizaines de milliers de personnes, et en Autriche, environ 6000 personnes.
Les sports à présent avec Élisée Oumpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football pour démarrer, la CAF n'a pas encore confirmé la date du tirage au sort des barrages du Mondial 2022 pour le 18 décembre.
Oui, ce malgré plusieurs fuites allant dans ce sens. Quelques jours après la fin de la phase de groupe de 16 éliminatoires, l'instance panafricaine dans un communiqué n'a pas confirmé l'information. Elle a toutefois signalé que les dates seront annoncées à l'issue de la réunion de son comité exécutif prévue le 25 novembre prochain au Caire. L'instance basée au Caire a par ailleurs confirmé que les 10 équipes en lice seront reparties selon le classement FIFA.
On reste sur le continent pour faire le point sur quelques championnats de première division.
Et on prend la direction du Bénin avec la 4e journée de la Ligue Pro. Et dans la zone A, rien n'arrête les Bifs du Bogou qui signent le 4e succès de rang et cette fois 3-0 face à Takoune de Kandi. Beke MC de Bébéréké est à 3 points suite à sa victoire de 1 à Djougou devant les Panthères. Dans la poule D, l'AS Tonnerre de Boïcon, qui a réalisé le service minimum devant US Baboni de Parakou, partage la première place avec l'Auto Popo, le champion en titre. Les deux équipes, qui totalisent 9 points, s'affronteront lors de la prochaine journée. Pour le reste, dans la zone C, l'association sportive du port autonome de Cotonou est désormais à 1 point de Coton FC de Ouida, leader du groupe avec 9 points, après son nul 0-0 face à Sitatunga d'Abomey Calavi. Et puis Ayema, qui est en tête de la zone T avec 10 points, a été accroché par Asvo 0-0. La jeunesse athlétique de Ketou en profite pour se rapprocher à 3 points après avoir dominé les Dragons de Lomé 2-0.
En Tanzanie, les Young Africans dominent le championnat après 6 journées.
Tout à fait. Le Yanga, malgré son nul de 1 but partout face à Nagumo, garde toujours la première place avec 16 points. 2 de plus que Simba Sport, vainqueur 3-1 de Ruvu. 9e journée par contre en RDC et belle victoire du FC Lupopo 4-2 à Kouya. Les cheminots, qui comptent 21 points, sont à une unité des corbeaux de TP Mazembe. Manema Union rate le coach en se faisant accrocher à Mujibai 1-1 par Sanga Balende. Net succès 3-0 de Blessing devant la jeunesse sportive de Kinshasa.
C'est la reprise au Sénégal avec la première journée de la Ligue 1.
Et belle entame du champion en titre Tongut qui est allé battre 2-0 à AS Douane. Le match choc de cette première journée a vu la victoire de Génération Foot 2-0 face à Jarafo. Même score en faveur du premier Linger qui affrontait Mbou Petite Côte. Diamba, vainqueur 3-0 de Ndiambou de Lunga, prend la première place au classement. Au Mali, 7 clubs partagent la première place du championnat avec 4 points après 2 journées. Et Black Star reste en tête grâce à sa meilleure différence de but. Il profite des résultats nuls enregistrés par le stade malien 0-0 face à l'AS Douane. Même score entre 11 créateurs et le club olympique de Bamako. Et 1-1 concédé à domicile par l'AC Djoliba devant les militaires de l'USFAS. Et puis, du basketball pour finir, la NBA. Et avec vous Idrissa, les résultats de la nuit.
Elle est Clippers et Dallas, 97 et 91. Elle est Lakers et Détroit, 121 et 116. Golden State Warriors et Toronto, 119 et 104. Chicago et New York, 109 et 103. Phoenix et Denver, 126 et 97.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a terminé son séjour en Afrique par une visite de 48 heures au Sénégal. Dans la capitale Dakar, il a rencontré le président Macky Sall et animé une conférence de presse conjointe avec son homologue Aissata Tall Sall. Plusieurs accords de coopération ont été signés et la démocratie a aussi été au cœur des discussions, nous dit notre correspondant à Dakar, Seydina Abagué.
Dans un contexte national marqué par des tensions entre l'opposition et le pouvoir, la ministre sénégalaise des Affaires étrangères a tenu à rassurer son hôte sur l'engagement du Sénégal pour la démocratie et le respect des libertés individuelles et collectives.
Le Sénégal est vu comme un modèle de démocratie. Mais ce n'est pas qu'une perception, c'est une vraie réalité que nous sommes un pays de démocratie. Et en cela, nous sommes très confortés de pouvoir participer à cette conférence sur la démocratie à laquelle le président Biden nous a conviés pour parler du modèle sénégalais. Dans ce qu'il a décrit et d'institutionnaliser ses institutions, sa justice, son parlement, son exécutif, son gouvernement, mais également parler du modèle sénégalais dans ce qui n'est pas écrit et qui est dans la tête des Sénégalais et qui sont des ressorts sociaux tellement forts que quand ces ressorts-là s'expriment, tout peut se régler au Sénégal.
Une position confortée par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui estime que le Sénégal a longtemps servi de modèle démocratique fort en Afrique subsaharienne avec des valeurs qu'il partage avec les États-Unis.
Une longue histoire de valeurs démocratiques, de transition pacifique, de pouvoir, de respect de l'état de droit, de liberté religieuse, de tolérance et de respect des droits humains. Mais le Sénégal ne peut pas tenir pour acquis les normes des institutions démocratiques et doit continuer à travailler pour protéger les libertés et l'espace politique pour des perspectives diverses. Et mes discussions avec le président Macky Sall me rassurent. Il est un leader fort et nous attendons avec impatience le rôle qu'il jouera l'année prochaine en tant que président en exercice de l'Union africaine. Son leadership est également attendu, notamment en défendant la démocratie et sa résilience. Ainsi, le rôle qu'il jouera dans le sommet pour la démocratie que le président Biden va accueillir.
For democracy and its resilience, and also the role that he will play in the summit for democracy that President Biden is going to be hosting very, very soon.
Dans ce contexte de COVID-19, les États-Unis vont appuyer le Sénégal dans la production de vaccins à travers l'Institut Pasteur de Dakar. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken espère que cela permettra au continent africain, qui importe 99% de ses vaccins, d'être plus autonome et de résorber une partie de son gap dans la vaccination.
Nous sommes très fiers du travail que vous faites et je sais que nous sommes impatients de faire plus pour aider les gens, non seulement ici au Sénégal, pas seulement dans la région, mais dans le monde entier. Aujourd'hui, l'Institut fabrique des vaccins contre la fièvre jaune, mais l'objectif principal de notre partenariat et de notre investissement dans l'Institut Pasteur est de permettre à cette infrastructure et à d'autres de la région d'augmenter considérablement leur capacité à produire une gamme de vaccins, y compris ceux ciblant le COVID-19. Et d'autres pandémies potentielles. Le renforcement de cette capacité est nécessaire, voire crucial pour renforcer la sécurité sanitaire et la future résilience aux pandémies, non seulement au Sénégal, mais à travers le continent.
Au Sénégal, le secrétaire d'État américain a également rencontré le secteur privé national et en sa présence, des accords ont été signés dans plusieurs domaines pour un montant global de plus d'un milliard de dollars. Seydina Abagué à Dakar pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
En République démocratique du Congo, l'ancien président Joseph Kabila est accusé d'avoir détourné des millions de dollars de l'État ainsi que des membres de sa famille biologique et des proches de sa famille politique. L'organisation américaine de Sentry a commencé à publier vendredi un rapport sur des révélations qu'un consortium des médias et d'autres organisations sans but lucratif, ont compilé. Eddie Isango a posé la question à un enquêteur de Sentry, ainsi qu'au chargé de mission de M. Kabila.
Il s'agit, d'après les rapports de Sentry, Des millions de dollars de l'État congolais détournés à travers un véritable labyrinthe des transactions commerciales avant d'être planqués dans des quartiers résidentiels tranquilles entourant la capitale américaine de Washington. Suivons ce qu'en dit un des chercheurs des Decentry, Douglas Gillison.
Les autorités de plusieurs juridictions du monde, non seulement la congolaise, mais aussi en Europe et en Amérique du Nord, sont largement aptes à intervenir de plein droit de leurs propres autorités. Et une partie de l'argent, par exemple, a détourné des fonds qui étaient censément destinés à rembourser l'État congolais pour le travail des forces de maintien de la paix congolaises, alors qu'elles étaient déplacées à l'intérieur. Elles venaient de la Banque centrale. Et tout cela est passé par les comptes des sociétés maintenues par les membres de la famille Kabila. Mais effectivement, je vous invite à lire l'ensemble de nos découvertes que nous avions mis au grand jour sur notre site.
Vous citez un frère du président, notamment Francis Selemani. Quel rôle a-t-il vraiment joué dans tout cela?
Eh ben, c'est le frère adoptif de l'ancien président, l'actuel sénateur à vie, Joseph Kabila. Et effectivement, il était directeur général de la banque. C'est lui qui a dirigé la banque au moment du détournement des fonds. Il est aussi impliqué de manière personnelle dans plusieurs opérations importantes. C'était en son nom, effectivement, comme vous pouvez le lire dans le rapport publié, qu'on a acheté de nombreuses résidences de luxe en Afrique du Sud et aux États-Unis.
C'est le frère du président, comme vous le dites, mais pas le président lui-même.
C'est vrai, il est reconnu dans l'industrie bancaire, enfin, ceux qui travaillent dans secteur de la conformité, que ceux qui sont de la famille des gens au pouvoir ou des gens ayant beaucoup d'influence, que aussi l'industrie bancaire doit faire très attention et scruter avec une attention exceptionnelle l'argent et les opérations à opérer au nom des membres de ces familles.
De son côté, les camps de Joseph Kabila nient les accusations et estiment que les démentis en est donné par le fait que l'ancien chef de l'État soit resté au pays sans se reprocher quoi que ce soit depuis bientôt 3 ans qu'il a organisé la passation pacifique du pouvoir avec son successeur. Écoutons les chargés d'affaires de Joseph Kabila, Julien Lubunga Biaoumbe.
C'est vraiment un non-événement parce que cela va faire presque 5 ans que les mêmes publications sont faites presque à la même période de chaque année et sont diffusées par les médias. Au moment où nous sommes en train de parler, Joseph Kabila est le seul président, je peux dire, dans la région de l'Afrique centrale que nous maîtrisons. Nous sommes le président qui a eu l'occasion et la chance de faire une remise et reprise avec son successeur qui reste venu de l'opposition et ne se reprochant de rien. Le président Joseph Kabila est resté dans son pays tout simplement parce que, contrairement à beaucoup de chefs d'État qui préfèrent aller investir et acheter des maisons en Belgique, en France, aux États-Unis ou ailleurs, tout ce que le président Kabila Joseph a eu dans son pays pendant les années qu'il a eu à travailler dans son pays, il investit dans des personnels ici dans mon pays. Il a préféré rester au Congo parce que sa conscience est tranquille.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
Au Soudan, le premier ministre Abdallah Hamdok a donc été rétabli dans ses fonctions ce dimanche, mais l'accord conclu avec le général Abdel Fattah al-Burhan, chef de l'armée et auteur du putsch du 25 octobre, n'a pas altéré la mobilisation de la rue. Des milliers de manifestants ont défilé dans plusieurs villes du pays. Un adolescent de 16 ans a été tué à Omdurman, la ville jumelle de Khartoum, de l'autre côté du Nil. Sur place, dans la capitale soudanaise, notre correspondante Patricia Huon.
Presque un mois après le coup d'État militaire au Soudan, Abdallah Hamdok, le premier ministre déchu, est donc de retour à son poste. La signature d'un accord avec les militaires a été suivie d'une déclaration devant la presse dimanche après-midi au palais présidentiel à Khartoum.
Nous voulons arrêter de verser le sang des Soudanais. Je sais que les jeunes ont l'énergie pour se battre, faire des sacrifices. Mais leurs vies doivent être épargnées. Ils doivent rester en vie pour reconstruire le pays.
Pas de quoi calmer la colère dans les rues. Des milliers de personnes ont encore manifesté dans plusieurs villes, reprenant les chants de la révolte. À Khartoum, le cortège qui tentait d'avancer vers le siège des autorités a été dispersé par la police à coups de grenades lacrymogènes et de tirs. Un adolescent de 16 ans a été tué à Omdurman, la cité jumelle de la capitale de l'autre côté du Nil. Pour Issam Ahmed, un avocat de 50 ans qui défilait parmi la foule, le retour d'Abdallah Hamdok dans ces conditions est inacceptable.
Pour moi, c'est une blague. Le peuple veut un pays dirigé par des civils, un pays démocratique. C'est ça que nous voulons. Ils essaient juste de tromper les gens. Ce n'est pas un vrai accord.
Abdallah Hamdok et le général Abdel Fattah al-Burhan se sont engagés à remettre sur les rails la transition vers la démocratie. L'armée a accepté de libérer tous les détenus politiques sans préciser de date et de revenir au terme de l'accord constitutionnel signé avec les révolutionnaires en 2019 après la chute d'Omar el-Béchir. Mais les détails sont flous et beaucoup s'interrogent sur le pouvoir de décision dont disposera désormais le Premier ministre. Pour la chercheuse soudanaise Relou Trahir, l'accord est favorable à la junte qui n'y fait pas de réelles concessions.
La junte a réalisé qu'elle n'avait pas d'argent et pas de légitimité. Donc, pour garder le pouvoir, ils doivent avoir l'air de faire des compromis. Ils ont donc décidé de faire revenir Hamdok pour blanchir le coup d'État, pour garder leur main mise sur leur avantage économique, mais aussi sur la justice transitionnelle pour éviter de rendre des comptes.
L'accord passé ce dimanche va inévitablement diviser le mouvement d'opposition entre ceux qui prônent la stabilité et ceux qui ne veulent plus des militaires sur la scène politique. La communauté occidentale, qui avait condamné la prise du pouvoir par les militaires et suspendu des millions de dollars d'aide, pourrait quant à elle s'accommoder de ce compromis. La rue soudanaise craint désormais de ne pouvoir compter que sur elle-même. À Khartoum, Patricia Huon pour VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Tchad, la population de Faya, dans la province du Borku, dans le nord du pays, exige le départ du gouverneur de cette province. Tout serait parti de la décision du gouverneur de rafler tous les véhicules en situation irrégulière pour faire face à l'insécurité qui prévaut dans cette zone. Une manifestation a eu lieu pendant le week-end et s'est soldée par un mort par balle et deux blessés, nous dit notre correspondant André Kotmajingar.
Ces manifestants ont brandi une banderole où on peut lire « Gouverneur dégage la population qualifie d'arbitraire la décision du gouverneur demandant aux propriétaires des engins à quatre roues de se mettre en règle. »
Pour le départ du gouverneur, vous savez, la population elle est déterminée.
Une victime, Joya Faya, chef-lieu de la province du Borku.
En dehors de la ville, il y a des coupeurs de route qui essaient d'anarquer les gens. Et qu'étant gouverneur, au lieu de protéger la population en déployant ses forces de l'ordre pour poursuivre les arnaqueurs, ça ne regarde pas le contrôle des véhicules. On doit le faire sur les axes des routes, mais ce n'était pas le cas.
Pour le gouverneur de la province du Borku, Isma Dachek, ce sont les ennemis de la paix qui poussent la population à se révolter pour laisser le champ libre à eux pour faire leur opération. Sinon, rafler le véhicule qui circule avec des vitres fumées ou teintées sans immatriculation fait partie de l'instauration de l'autorité de l'État. Le gouverneur confirme aussi la mort d'un manifestant, mais pas par balle, dit-il.
Je vous assure qu'aucune balle réelle n'a été tirée. S'il y a une balle tirée, c'est du côté du manifestant.
Est-ce que la population armée.
Oui, on a l'information qu'il y avait aussi des armes à feu au milieu des manifestants.
Une accusation que refute un manifestant que VOA Afrique a réussi à joindre.
Parmi les manifestants, il n'y a aucune personne qui a même un morceau de fer à la main. Comment ils vont porter une arme? Maintenant, on nous qualifie de rebelles.
Isma Tachek, gouverneur de la province du Borku, reconnaît que par moment, l'État est absent dans cette zone.
Oui, c'est pour cette raison que je suis là. Je suis nommé avec des instructions fermes pour l'instauration de l'autorité de l'État et la sécurisation du bien.
Alors qu'il n'y a pas longtemps, le ministre en charge de la sécurité publique, Souleymane Abakar Adam, a déclaré que la situation sécuritaire du Grand Béti, subdivisée en quatre provinces, dont celle du Borku, est totalement maîtrisée.
Je ne suis pas d'accord un peu sur l'absence de l'autorité, parce que à la création de deux commissions, commission mixte de la sécurité des villes de N'Djamena, aussi une commission mixte de la sécurisation dans la partie nord du pays. Cette commission, depuis qu'elle est déployée dans cette partie, on n'attend pas beaucoup. Comme avant, le braquage et le vol, et que nous contrôlons l'ensemble du parti nord du pays.
Sur le même sujet, Abdramane Koulamala, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, nuance ses propos.
Chaque fois que l'État déploie des forces considérables pour mettre fin à certaines impunités, ce sont les mêmes, y compris les journalistes, qui disent « Oh, regardez la répression qui s'est faite dans ce coin extrême du pays ». La zone du Tibesti est une zone extrêmement difficile d'accès dans certaines zones.
Les autorités se mobilisent en ce moment pour calmer la tension entre les deux communautés qui encore vivent. André Kodouma Djingar Ndjamena pour VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. VOA Afrique au micro Idriss.